Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Rage, Voix de Jeunes, bonjour et bienvenue à votre émission culturelle À mon sens. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous nous sommes déplacés au Salon international de livres à Alger, donc plus précisément au stand El Kalima, la maison d'édition El Kalima, pour rencontrer Linda Schuiten, donc auteur du Le roman des pauvres cheveux, paru aux éditions El Kalima Alger en 2017, donc grâce auquel elle a été finaliste pour deux prix littéraires, à savoir donc Escale d'Alger ainsi que le prix littéraire Mohamed Dib. Donc bonjour Linda.
Bonjour, merci d'être là.
Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Donc je précise que Linda Schuiten est originaire de Tizi Ouzou. Elle est maître de conférences et assure des cours de littérature anglophone à l'université de Boumerdès. Donc elle est aussi auteure de deux études et critique littéraire, toutes les deux parues à la fois aux États-Unis et en Bretagne. Et elle a aussi créé la revue bilingue In Passage. C'est ça ?
C'est ça. En fait, j'ai deux livres académiques. Le premier a été publié aux États-Unis et le deuxième en Grande-Bretagne. Donc, ils n'ont pas été publiés simultanément. Voilà. Pour la revue, elle s'intitule In Passage, The International Journal of Writing and Mobility, ce qu'on pourrait traduire comme la revue internationale de l'écriture et de la mobilité, du mouvement, voilà, en quelque sorte. Voilà, donc c'est une revue internationale qui traite du thème de l'écriture dans son sens, et de la mobilité dans son sens large, c'est-à-dire que ça peut être des récits de voyage, on peut parler de récits de voyage, de la littérature de l'exil, mais aussi du mouvement dans son sens figuré, c'est-à-dire traduire d'une langue à une autre. Donc la traduction aussi peut faire partie des sujets qui nous intéressent, les mouvements littéraires, l'intertextualité, tout cela sont des sujets que nous traiterons, j'espère, à l'avenir dans cette revue-là. Voilà.
Donc voilà, en fait, vous êtes au courant pour surtout les universitaires et les chercheurs dans le domaine. N'hésitez pas à consulter cette revue qui a l'air très riche. Donc j'ai appris aussi via Facebook, heureusement que Facebook existe, que vous êtes également poétesse, parce que j'ai eu l'occasion de lire un de vos poèmes en langue française, n'est-ce pas ?
Oui, je suis également poétesse, j'écris des poèmes, j'ai publié très peu de poèmes pour le moment. J'ai publié deux poèmes en anglais en 2016, dans c'est un ouvrage collectif qui porte sur la solitude, ça s'appelle Loneliness en anglais. Donc j'ai contribué avec deux poèmes, voilà, c'est un ouvrage collectif, donc comme je viens de le dire. Et puis récemment, il y a eu un autre ouvrage collectif en hommage à Katia Bengana, que vous connaissez sans doute, cette jeune fille qui a été assassinée en 94 pour avoir refusé de porter le voile. Et donc j'ai écrit un petit poème pour lui rendre hommage aussi. Et j'ai aussi une trentaine de poèmes, un peu moins peut-être aussi à mon actif, mais ils n'ont pas été publiés. C'est le seul que j'ai publié pour le moment. Voilà.
Et donc justement, vous avez commencé avec un roman, donc pourquoi pas bientôt un recueil de poésie ?
Oui, j'envisage de publier un recueil de poésie, peut-être en 2019. En fait, je travaille sur un deuxième roman. Je ne sais pas si je vais publier le deuxième roman d'abord, puis le recueil de poésie, ou le contraire, mais les deux font partie de mes projets de toute façon. Voilà.
Ben, peu importe par quoi vous commencez, nous on les attend tous les deux en tout cas. Donc, je disais donc poésie, littérature, fiction et académicienne. Donc comment arrivez-vous à gérer tout ça à la fois, et surtout est-ce qu'il y a des influences de l'un à l'autre, etc.
Comment je gère quand on aime quelque chose, on trouve forcément un petit peu de temps, même si je ne trouve pas vraiment de temps. Par exemple, j'ai écrit pendant l'été beaucoup plus que ce que j'écris maintenant. Maintenant, j'ai très peu de temps. Donc, depuis qu'on a repris, depuis la rentrée, j'ai très peu de temps pour écrire. Mais enfin, il y a des moments où l'envie est tellement forte qu'on laisse tout de côté et qu'on se met à écrire de toute façon. Et puis, est-ce qu'il y a une influence Oui, je pense que c'est inévitable. D'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question l'année dernière, il m'a dit, est-ce que c'est handicapant ou est-ce que c'est un avantage, le fait d'enseigner la littérature? Ouais. Et j'ai dit, en fait, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, bien sûr, plus on a des connaissances, plus on lit, plus ça enrichit notre propre écriture. Mais de notre côté, ça peut être handicapant dans le sens où on devient trop conscient de soi, c'est-à-dire qu'on manque de spontanéité par moment, c'est-à-dire qu'on réfléchit à tout ce qu'on écrit. Voilà, Derrida aurait pensé ça de mon livre, Foucault, je sais pas, Barthes, etc., tous les théoriciens nous viennent à l'esprit, et ça peut devenir un peu plus moins fluide. Heureusement, bon, que c'est pas trop, si on arrive à gérer ça, ça va, c'est qu'une richesse. Et donc l'inverse. Forcément l'inverse, mon écriture non, pas spécialement, c'est plus dans le sens inverse. Je crois que l'écriture, elle est plus dans sa petite bulle, etc. Je la protège en quelque sorte. Je ne l'exporte pas beaucoup, même si mes étudiants ont bien voulu, certains d'entre eux du moins, se procurer le roman et le lire. Mais enfin, je ne m'en sers pas beaucoup dans mon travail au quotidien. Voilà.
Je comprends. Donc, revenons au roman, justement, le roman des pauvres cheveux.
Des pauvres cheveux,
il faut V' cheveux, exactement. Donc c'est en fait une œuvre satirique. Donc l'histoire est rapportée par des personnages capillaires en présence de personnages humains, et beaucoup de thématiques sont évoquées à travers les mésaventures des uns et des autres. Est-ce qu'on pourrait évoquer quelques thématiques présentes dans le...
Il y a plein de thèmes qui sont traités dans ce roman-là. Bon, par exemple, le thème de l'identité, puisque c'est des cheveux qui s'éloignent de leurs racines, qui tombent, donc qui s'éloignent de leurs racines, et qui se retrouvent exilés, qui se retrouvent donc à Paris, voilà, non seulement loin de leurs racines, de leur ce qu'on appelle les villages dans le roman, c'est-à-dire la tête dont ils sont issus, mais loin du pays natal des personnages à qui ils appartiennent, des personnages humains. Oui. Voilà. Et donc, ils apprennent à voir le monde autrement, ils apprennent à être vus comme des moins que rien, à être maltraités, à être méprisés. Et ça aussi, c'est l'un des thèmes des romans, le mépris. Le mépris est au cœur du roman, parce que ces pauvres cheveux, on ne les appelle pas pauvres cheveux pour rien, c'est des pauvres cheveux qu'on regarde constamment avec dégoût, dont on ne veut pas. Ils sont rejetés là où ils vont, où qu'ils aillent. Donc c'est à peu près une métaphore, ça symbolise le mépris que connaissent malheureusement beaucoup d'êtres humains, soit parce qu'ils sont différents, soit parce qu'ils sont étrangers, soit parce qu'ils ont une couleur de peau différente. D'ailleurs, le thème du racisme est aussi présent dans le roman, puisque les pauvres cheveux méprisent les cheveux roux, ont peur des cheveux roux de Louisa, personnage de Rousse. Et voilà, le racisme est présent, donc le mépris sous toutes ses formes, que ce soit un mépris de classe, que ce soit un mépris de race, que ce soit tout cela, ou bien la condition, le mépris qu'on a parfois pour la femme. Donc la condition féminine est un autre thème présent dans le roman. Il y a le thème du fanatisme religieux, l'extrémisme religieux est présent.
D'ailleurs, ça me rappelle, justement par rapport aux cheveux, on a l'impression que chaque cheveu a une personnalité complètement différente. En parlant justement du fanatisme religieux, c'est l'histoire des deux cheveux, celui qui est très religieux et l'autre qui est plutôt progressiste.
Il n'y a pas de cheveux religieux et de cheveux progressistes. Il y a des personnages humains, il y a le personnage de Saïd Lataman, qui est censé être un fanatique religieux, il est censé être très pieux, très religieux, et il force sa femme, Paous, donc, à porter ce qu'on appelle dans le roman le grand foulard noir, c'est-à-dire le djilbab, etc. Et il la néglige. Bon, elle est un petit peu cloîtrée, sa vie est réduite à rien du tout, à s'occuper des enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là qui joue au pieux qui joue à la, il fait le joli cœur, il se débarrasse de sa djellaba et de sa mauvaise barbe, il la taille, voilà, de façon tout à fait élégante et tout ça, et il parle faire le joli cœur auprès d'une autre belle demoiselle qui, elle, n'est pas voilée à Paris. Donc, il cloître sa femme, donc c'est, il y a une sorte d'hypocrisie, une sorte de double jeu, d'hypocrisie, et d'ailleurs, même son nom est symbolique, puisqu'il s'appelle Saïd Lataman. La termine, il ne faut pas s'y fier, il ne faut pas le croire. Et c'est, ça symbolise l'hypocrisie dont peuvent faire preuve parfois ceux qui se disent religieux. C'est-à-dire que c'est une sorte de faux dévot, en fait. C'est des tartuffes, c'est des faux dévots. Voilà.
Bah justement, par rapport au nom des personnages, c'est entre autres le nom des personnages. Ça me rappelle, moi, personnellement, Kafka. En plus de l'humour, parfois l'ironie. Et ça, c'est peut-être une influence, justement, non ?
Kafka, bien sûr, m'a clairement influencé. Cette littérature de l'absurde, ces événements tout à fait étonnants, tout à fait inattendus, sont ce qui caractérise les romans de Kafka, dans Le Procès ou dans La Métamorphose, où un jeune fonctionnaire se réveille un bon matin pour découvrir qu'il s'est transformé en cafard. De la même manière, ses cheveux qui vivaient tranquillement sur leur village, enfin, pas tranquillement parce qu'ils étaient maltraités, même quand ils étaient encore sur leur tête, dans leur village, mais un beau jour leur vie bascule parce que ils se transforment en exilés, en moins que rien, etc. Et on les pourchasse, on les traque de la même façon dont on traque le cafard de Kafka dans La Métamorphose. Et ce qui est intéressant, c'est que La Métamorphose de Kafka est présente de façon explicite dans le roman. L'intertexte kafkaïen est présent puisque à un moment, à Paris, lors de leurs aventures, Pauvre Cheveux et son ami Anza, donc les deux cheveux principaux de l'intrigue, rencontrent le cafard de Kafka. Ils rencontrent un cafard et ils essayent de les convaincre que c'était un être humain. Il leur dit: je suis Grégor, je m'appelle Grégor, je suis un être humain. Et ils le comprennent. Pas du tout. Au contraire, ils ne le croient pas et ils s'acharnent sur lui. Anza, surtout, s'acharnent sur lui avec une violence extraordinaire, avec une violence inouïe. Ils se mettent à le maltraiter. Ils leur disent: on a tout le temps été maltraité. Et si tu étais un humain, alors raison de plus pour te maltraiter, parce que les humains nous ont toujours mené la vie dure. Et donc, il y a des espèces de situations comme ça, abracadabrantes, vraiment étonnantes, etc., qui accentuent l'absurde, la dimension absurde du roman, mais qui sont encore une fois symboliques parce qu'elles mettent l'accent sur l'universalité du mal, puisque c'est ces cheveux-là qui sont maltraités, qui sont censés être victimes, deviennent bourreaux à leur tour. De même qu'ils ont longtemps été maltraités, ils le maltraitent à leur tour. Donc, ce qui veut dire que le mal est un petit peu en chacun de nous, il est un petit peu universel. C'est un petit peu ce que dit le roman. Voilà.
D'accord, donc justement une œuvre satirique et par essence une œuvre qui dénonce. Nous avons pu découvrir avec vous quelques dénonciations que vous y faites. Et la littérature moderne, le personnage de l'échec, j'ai l'impression que en plus de l'humour et de l'ironie, à l'exception de quelques personnages qui ont réussi malgré leur situation de départ, la plupart c'est des personnages de l'échec, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. C'est le cas d'Utudert qu'on retrouve à la fin du roman en train de fouiller les poubelles tellement il n'a pas de quoi manger. C'est le cas de Taous aussi, puisque elle finit cloîtrée, elle finit femme épouse négligée de ce Saïd Lataman dont je parlais il y a quelques minutes, de ce faux dévot là. Donc elle arrête de travailler, c'est une femme malheureuse, tout à fait négligée, qui n'est pas heureuse en ménage, qui n'est pas heureuse, qui n'a plus de vie professionnelle, donc elle ne s'épanouit nulle part. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui réussissent, c'est Fouzia, qui est une manipulatrice et une trafiquante de perruques. C'est une trafiquante, donc c'est une femme malhonnête. Et son complice, qui deviendra par la suite son mari, qui est un maire, futur député, qui deviendra député par la suite. Donc un politicard pas très honnête lui aussi. Lui aussi, il est impliqué dans ce trafic de perruques. Mais c'est eux qui réussissent. Donc il y a un peu de cynisme dans ce roman. C'est un roman un petit peu cynique. C'est les méchants, un petit peu, entre guillemets, de l'histoire qui réussissent le plus. Voilà.
Et ça reflète peut-être une réalité.
C'est une réalité, tout à fait. Malheureusement, ce ne sont pas forcément les plus sincères, les plus honnêtes qui réussissent. Voilà, c'est ça.
Et donc, l'histoire se déroule entre l'Algérie et la France. Je ne sais pas, est-ce que ce serait peut-être un clin d'œil à la vague d'immigration ou de la haraga ou, donc, que connaît notre pays ?
Honnêtement, je n'ai pas pensé vraiment au haraga quand j'ai écrit le roman. C'est M. Youssef Sayar qui me l'a signalé, l'animateur de l'émission Expression Libre, qui me l'a signalé lors de l'émission. Il me dit, ces cheveux-là, ils quittent tous leur village, leurs racines, contre leur gré. C'est-à-dire, l'un d'eux tombe dans la soupe et après, on le jette comme un moins que rien. Il se retrouve dans la capitale française, aéré dans la capitale française. Pauvres cheveux, ils tombent dans une chaussure, dans un salon de coiffure, alors que Taous était en train de se faire coiffer. Ils tombent donc, et la coiffeuse le jette, il se retrouve dans une chaussure, comme la propriétaire de la chaussure. Elle finit par mettre ses chaussures, elle était censée partir en France. Donc il fait le trajet en France dans une chaussure, et il me dit c'est des harag, ils se retrouvent tous en France, un petit peu par hasard, contre leur gré. Et ça m'a fait sourire, effectivement, il y a une dimension harag, même si moi je n'y ai pas pensé en moment. J'ai pensé à l'exil, j'ai pensé au déracinement, ça c'est évident, le terme racine des cheveux, je n'utilise pas par hasard, c'est un clin d'œil à nos racines, aux racines voilà, des êtres humains, mais les haragas, je n'y ai pas spécialement pensé, mais effectivement, on y retrouve un petit peu de ce thème également, même si je ne l'avais pas mis dans le roman de façon intentionnelle.
D'accord, et par contre, la plupart des personnages, qui soient des personnages culinaires, capillaires, qui soient des personnages capillaires ou humains, pour la plupart, ce sont des personnages qui ne représentent pas l'élite, et ce sont eux qui quittent l'Algérie de manière, comme vous l'avez signalé, sans qu'ils se rendent compte, sans que ce soit de leur plein gré. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire quelque chose par rapport, je sais pas, par rapport à la situation de l'Algérie? Maintenant, c'est tout le monde qui essaie de quitter, qu'il ait l'étoffe ou pas.
Là encore, je n'avais pas spécialement là ce thème-là en tête quand j'ai décrit l'exil de ces cheveux-là. Donc je me suis pas dit je vais mettre l'accent sur le fait que tout le monde cherche à partir. C'était pas là mon propos. Mais comment dire le gouffre en quelque sorte qui sépare les intellectuels, l'élite, ce que vous appelez l'élite, des citoyens lambda, on va dire, est signalé dans le roman, est présent dans le roman, et là de façon consciente, puisque les cheveux ont leurs élites aussi, ils ont leur élite, et c'est les messieurs, c'est ce qu'on appelle les messieurs dans le roman, c'est-à-dire les messieurs, celui qui écrit le roman, le roman des pauvres cheveux, est censé être un intellectuel. C'est quoi un monsieur dans le roman? C'est un cheveu qui est tombé dans un manuel quelconque, dans un livre quelconque, et donc qui a appris des choses en séjournant dans ce livre-là, et ça devient un homme instruit, et ça devient un monsieur, comme on dirait un monsieur, voilà, c'est une reconstruction du mot monsieur et du mot mèche de cheveux, et ça donne monsieur. Et c'est ce monsieur-là qui a appris à lire, donc, qui a séjourné entre autres dans le livre La Métamorphose de Kafka, justement. Il se dit, puisque moi je suis un intellectuel, puisque moi je sais lire et écrire, il faudrait bien que ce savoir serve à quelque chose. Donc je vais écrire les souffrances, l'histoire de mes frères cheveux, qui eux sont analphabètes, qui eux ne peuvent pas écrire. Et là, c'est un clin d'œil au rôle qui est censé être le rôle de tout intellectuel, justement, dans notre société ou dans d'autres sociétés d'ailleurs. Donc l'intellectuel, la figure de l'intellectuel est présente dans le roman, mais je n'ai pas forcément pensé au thème de l'exil des intellectuels. Cette idée telle que vous l'avez formulée ne m'a pas...
C'est-à-dire, ce n'était pas l'un des mobiles de l'écriture, ce n'était pas une intention, mais après, une fois qu'en général, les écrivains, c'est une fois qu'ils ont fini d'écrire leur roman, après une deuxième, une troisième lecture, ils se rendent compte de choses qu'ils n'avaient pas convenues dès le départ.
Des fois, on se rend compte de choses qu'on n'avait pas mises intentionnellement, et parfois, c'est les lecteurs qui réécrivent le livre, parce qu'on dit souvent qu'un livre, une fois qu'il a été publié, écrit et publié, il échappe à son auteur. Les lecteurs deviennent auteurs à leur tour et ils réécrivent, c'est-à-dire qu'ils peuvent ajouter certaines dimensions, certaines... au roman des dimensions que l'écrivain, l'auteur n'a pas forcément vu lui-même. Et c'est les lecteurs qui les interprètent à leur façon. C'est les lecteurs et les critiques qui enrichissent le livre, le roman, de leurs propres interprétations. Et c'est un peu ce que vous êtes en train de faire en rajoutant cette dimension-là au roman, même si moi je ne l'avais pas en tête quand j'ai écrit. Vous êtes en train d'alimenter le roman vous-même en tant que lectrice. Voilà.
Donc justement, c'est extraordinaire qu'il y ait une histoire, qu'on ait pensé justement à rédiger tout un roman dont les personnages ne sont en fait que des cheveux, mais qui reflètent d'une manière claire, plein de symboliques. C'est très original. Comment l'idée vous est venue ?
Eh ben, c'est une question qu'on m'a souvent posée, donc j'ai souvent raconté cette anecdote-là. En fait, c'était une période où je souffrais d'une chute de cheveux. Mes cheveux tombaient tout le temps. D'ailleurs, j'ai longtemps souffert de ce problème-là. Je ne m'en suis pas complètement débarrassée, même maintenant, voilà. Et donc, à chaque fois que je voyais un cheveu tomber sur mes vêtements, voilà, ça me dérangeait. J'étais triste de perdre comme ça mes cheveux. Et je me lamentais, je me disais, ah, mes pauvres cheveux, ah, mon pauvre cheveu, voilà. Je disais ça, je suis en train de les perdre, mes pauvres cheveux. Et ça m'est venu comme ça, ça a fait une sorte de déclic, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, tiens, ça ferait un bon titre de conte ou de roman d'un livre quelconque, Les aventures d'un pauvre cheveu. C'est comme ça que c'est venu la première fois, j'ai pensé au titre Les aventures d'un pauvre cheveu. Et je me suis imaginé donc ce cheveu-là tombant dans la soupe et jeté, voilà, absolument, absolument. Je me suis imaginé un cheveu tombant dans la soupe, puis jeté comme un moins que rien, puis traqué, pourchassé, et tout un tas d'aventures commencent. La première scène que j'ai imaginée, c'est celle du cheveu tombant dans la soupe et puis se faire jeter, voilà. Et puis voilà, d'autres idées sont venues, ça a créé tout un monde, tout un univers, et le pauvre cheveu est devenu plusieurs pauvres cheveux. On a plusieurs pauvres cheveux dans le roman, et donc c'est devenu le roman des pauvres cheveux plutôt que d'un seul pauvre cheveu. Voilà.
Et combien de temps ça vous a pris pour rédiger tout le roman ?
En fait, je l'ai rédigé en deux parties. J'ai commencé à le rédiger vers 2006, quelque chose comme ça. Puis je l'ai abandonné. C'est un défaut que j'ai, voilà. Souvent, j'écris depuis toute petite et chaque fois que je me mets à écrire quelque chose, je m'en lasse. C'est pas que je m'en lasse, je me décourage. Je me décourage et je me dis, oh, ça ne mènera nulle part ou c'est pas bon. Je relis, je me dis, c'est pas bon. Alors là, par exemple, en l'occurrence, je me suis dit, une histoire de cheveux, mais qui ça va intéresser? Ça n'intéressera personne. Et donc, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté. J'avais écrit une cinquantaine de pages. Je l'avais un petit peu oublié et je suis passée à autre chose. Je me suis inscrite en doctorat, j'ai voyagé, enfin j'ai vécu ailleurs, je suis allée en Irlande faire ma thèse. Je suis revenue, j'avais terminé ma thèse, j'ai fait mon premier livre qui s'inspire de ma thèse justement, j'ai publié donc mon premier livre, celui qui est publié aux États-Unis. Et ce n'est qu'une fois que j'ai liquidé tout ça, ça y est, j'avais du temps libre enfin, et je me suis mise à fouiller un petit peu dans mes anciens écrits. J'ai repris ce livre-là, je me suis mise à relire, je me suis dit, mais non, c'est une idée intéressante. Du moins, moi, je la trouve intéressante, genre que je veux bien aller jusqu'au bout. Voilà, je veux bien tenter aller jusqu'au bout et puis tenter l'aventure de la publication. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai repris l'écriture vers fin 2013, début 2014. J'ai terminé. Voilà, donc on va dire c'est beaucoup d'années, mais en fait c'est parce qu'il y a eu beaucoup de vide au milieu. Je l'ai repris et voilà, et puis le temps de trouver une maison d'édition aussi, c'est paru en 2017. Voilà.
Est-ce que vous pourrez nous raconter votre expérience auprès des maisons d'édition? Est-ce que vous vous êtes adressé directement à l'édition El Kalima, etc.?
En fait, j'avais tenté deux ou trois éditeurs avant. Des grands éditeurs français, mais bon, j'avais très peu de chance parce que paraît-il, pour se faire publier chez elle, bon, je vais pas citer le nom de l'éditeur, mais vraiment un grand éditeur très connu, et paraît-il un petit inconnu qui ne connaît personne là-bas n'a aucune chance de se faire publier. Donc j'ai été un petit peu naïve d'espérer pouvoir me publier par un grand éditeur français. Ça n'a pas marché. Puis je l'ai envoyé chez un grand éditeur algérien. Même chose, j'ai essuyé un refus, j'étais très 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 déçue. J'ai demandé qu'on m'explique la raison du refus. On m'a dit on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, donc voilà.
Concernant l'édition algérienne.
Un grand éditeur algérien, voilà.
L'édition française, est-ce qu'il y a eu des justifications?
Non, il n'y a pas eu de... C'était une réponse standard, désolé, on ne peut pas, voilà. En général, on dit malgré ses qualités, nous sommes dans le... Voilà. Et finalement, j'ai rencontré l'éditrice Del Kelima un petit peu par hasard. C'était lors d'un colloque sur Isabelle Eberhard. Mon premier ouvrage portait sur Isabelle Eberhard, justement. Donc, quand j'ai su qu'il y avait un colloque sur Isabelle Eberhard à la Bibliothèque nationale, je me suis déplacée et j'ai parlé un petit peu de mon ouvrage. Parce que moi, j'avais pas été invitée à prendre part à ce colloque-là parce que personne n'avait entendu parler de mon livre qui est paru aux États-Unis. Il est paru en anglais, il a été publié en anglais aux États-Unis. Donc, on n'a pas entendu parler de lui ici en Algérie. Et quand je me suis levée pour poser ma question, j'en ai profité pour parler de mon roman. Et de mon livre. Et quand on a su que j'ai publié un livre sur Eberhard, on m'a dit, bon, on m'a encouragé, les gens étaient enthousiastes, et on m'a dit, il faudrait penser à le faire traduire et à le publier en Algérie. Ça serait dommage qu'on n'en profite pas. Et on m'a dit, il y a une éditrice ici. Qui serait peut-être intéressé par la publication d'une version traduite, une version française de ton livre. Et donc, on m'a orienté vers Madame Beljoudi, donc, qui est la directrice d'El Kelima, et j'ai été la voir au début pour lui parler du projet de traduction de mon ouvrage sur Eberhard. Elle m'a dit, ce n'est pas ce que je cherche pour le moment, je cherche des romans. Et je lui ai dit, ça tombe bien, j'ai un roman qui est prêt, finalisé. Je lui ai dit, mais c'est un roman un petit peu fou, un petit peu bizarre. Elle m'a dit, ça fait rien, c'est ce que je cherche quelque chose d'original. Et je le lui ai envoyé. Elle l'a fait lire par le directeur de littéraire, le professeur Guy Dugas, qui en a recommandé la publication, et ça a commencé comme ça. Voilà.
Ah, magnifique, j'espère que ce n'est qu'un début et qu'on aura l'occasion justement de lire beaucoup d'autres livres et aussi des recueils de poésie. Donc Linda, vous maîtrisez 4 langues, donc le kabyle, l'arabe, le français et l'anglais. Donc est-ce davantage un avantage ou un inconvénient, ne serait-ce que dans le domaine de la littérature, de passer d'une langue à une autre, sans oublier donc les mœurs, les us et les traditions les habitudes aussi langagières?
Bien sûr que c'est un enrichissement, c'est une très très grande richesse. Moi, je me sens très chanceuse de maîtriser autant de langues, et j'ai aussi quelques notions d'espagnol et des notions d'allemand, et j'espère avoir le temps de me perfectionner dans ces langues-là aussi, et pourquoi pas d'en apprendre d'autres. D'abord, j'adore les langues, j'adore parce que elles nous plongent non seulement dans une nouvelle langue, mais dans tout un univers, l'univers, comme vous dites, culturel, littéraire, historique de tout d'un pays. Donc, et je suis un petit peu actrice peut-être quelque part, j'épouse un petit peu la culture. Je me mets dans la peau, par exemple, je parle anglais, quand j'apprenais l'anglais en tant qu'étudiante, je me mettais un petit peu dans la peau des anglais, dans la peau des personnages que je rencontrais au gré de mes lectures et tout ça. Et j'adore ça. J'aime bien, d'abord, ça nous sauve de l'ennui. Moi, je me demande comment les gens qui ne connaissent qu'une seule langue peuvent éviter l'ennui, réfléchir tout le temps dans la même langue, parler toujours la même langue, écouter toujours la même langue, ça doit être un petit peu ennuyeux. Déjà, rien que pour nous sauver de l'ennui, je trouve que être polyglotte, c'est vraiment une grande richesse. Ensuite, donc on découvre plusieurs mondes, comme je viens de le dire, et puis ça facilite le contact avec un petit peu tout le monde. Quand on parle anglais ou qu'on aille, on peut parler de... On peut se débrouiller. Si quelqu'un ne parle pas français, c'est un avantage. Si quelqu'un ne parle pas anglais, il parlera français peut-être. J'ai été à Bratislava il y a 2 ans, en Slovaquie. Et je tombe sur des gens, certains parlaient anglais, je suis tombée sur un vieux couple qui parlait pas anglais, ils me disent désolé, on parle pas anglais, je dis vous parlez français, il me dit oui, on parle français. Donc voilà, on arrive toujours à se débrouiller. Si l'arabe ne marche pas, ça sera le français, si le français ne marche pas, ça sera l'anglais. On arrive plus facilement à se débrouiller, alors que quelqu'un qui ne parle que sa langue maternelle, c'est un peu difficile de s'en sortir lors de ses voyages. Et puis ça donne beaucoup d'ouverture d'esprit, une très grande ouverture d'esprit, parce que quand on a connu plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs façons de réfléchir, plusieurs etc. Ça nous ouvre, on reste pas bloqué sur sa propre mentalité, sa propre façon de voir le monde. Le monde est très riche voilà, l'esprit humain aussi est très riche, etc. Et ce serait dommage de se cantonner à à une seule culture. Il y a un petit inconvénient tout petit, c'est que quelquefois ça se mélange un petit peu dans notre tête. Donc voilà, par exemple, au lieu de dire, au moment où je parle français, un mot peut me venir en anglais et je suis en train de le chercher en français. Voilà, des fois ça se confond un petit peu, c'est un petit peu le désordre. Mais à part ça, ce n'est que du bonheur.
Je ne sais pas si j'ai raison, mais avec mon amie Imen, que je salue d'ailleurs parce que c'est elle qui m'a fait découvrir votre livre, donc on a cru déceler justement cette influence des langues dans votre roman, mis à part évidemment par rapport au nom des personnages. D'ailleurs, je signale qu'il y a de la créativité, il y a de nouveaux mots créés carrément de toutes pièces. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire à propos?
De l'hybridité linguistique ou de la création, les deux? Bon, l'hybridité linguistique, il y a surtout deux langues dans le roman. Il y a, bien sûr, le roman est écrit en français, c'est évident. Et puis, il y a une présence kabyle, puisque moi, mon background est kabyle. Donc, le nom des personnages, comme vous l'avez dit, sont des prénoms kabyles pour la plupart. Pas tous, mais certains. Ou Zoudert, par exemple, c'est un prénom typiquement kabyle. Et puis, il y a Taous et Louisa, qui sont des prénoms très répandus en Kabylie aussi, mais qui sont plus connus des Algériens. Je crois que tout le monde connaît le prénom Taous, le prénom Louisa. Et il y a des mots comme Anzad, c'est le prénom d'un cheveu. Anzad, en fait, veut tout simplement dire cheveux en kabyle. Et il y a Femvit, les personnages Ouzoudalt, Taous, Louisa, etc. Avant d'émigrer en France, ils évoluent dans la ville de Femvit. En fait, Femvit, c'est une ville fictive dont le nom ne veut rien dire d'autre que ville. Femvit veut dire ville en kabyle. Donc, ils habitent dans la ville. Voilà, la ville, voilà. Donc, Femvit, il y a par exemple le nom de Fouzia, son nom de famille c'est Tezremt. Fouzia Tezremt. Et Tezremt veut dire en fait serpent, la femelle du serpent en kabyle, etc. Donc il y a plein de Femers, le mot menton, enfin le village de menton, le village des cheveux et le village du menton. Et donc ça s'appelle Femers. Femers veut dire menton en kabyle. Donc il y a plein de mots kabyles comme ça. C'est tout, il y a du français. Il y a le mot mounafir qu'on a, par exemple, donc de temps en temps, le mot mounafir est écrit. Mais en gros, c'est un mélange de français et de kabyle, en gros. J'ai trouvé ça, d'abord, l'hybridité linguistique est une réalité algérienne. Les Algériens ne parlent pas une langue pure, on parle toujours un mélange, etc. Même moi, quand je parle, ma langue maternelle est censée être le kabyle, mais en fait, ce n'est pas exact de dire ça. Ma langue maternelle est une langue hybride, c'est un mélange de kabyle et de français. C'est ce que j'ai appris à parler depuis toute petite. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul Algérien qui ne mélange pas l'arabe ou le kabyle, ou le français et l'arabe, ou le français et le kabyle. Voilà, il y a toujours toutes sortes de mélanges. Et donc, cette hybridité, en fait, ne fait que refléter une réalité algérienne. Mais d'un autre côté, elle a un côté très ludique. C'est très drôle, c'est amusant de jouer comme ça, de donner des mots, des noms kabyles à des régions ou à des régions capillaires ou des régions pour être humain, pour des communautés humaines et tout ça, comme c'est le cas pour Femdit. J'ai trouvé ça donc très très amusant de le faire, et c'est la même chose pour les mots que j'ai créés. Donc il y a une forte... Je me suis amusée en écrivant ce roman. Je me suis vraiment amusée en écrivant ce roman. Et je me suis amusée surtout en créant justement le mot messieurs, le mot pauvre village, des mots comme ça de ce genre. Je trouve que c'est amusant pour l'auteur lui-même et probablement pour le lecteur aussi, qui doit... parce que l'originalité amuse en fait, je crois. Voilà, donc c'est ça.
Justement, on est peut-être dans la création pure, vu que déjà c'est une fiction, et la pureté c'est surtout par rapport au langage et au vocabulaire. Et pour aller dans le même sens, puisque vous venez de dire que vous vous êtes amusé en écrivant le roman, je voudrais justement savoir, puisque d'ailleurs l'émission s'appelle « À mon sens », donc « À votre sens », quel est le sens que vous donnez à la littérature ?
Alors là, c'est une question un peu difficile, parce que la littérature, c'est tout un monde. Le sens, et c'est peut-être là le sens de la littérature, c'est recréer le monde. C'est recréer le monde, c'est-à-dire c'est créer tout un monde en fonction des comment dire, des lubies de l'auteur, ou alors de ses intérêts, ou alors de ce qui, des causes qui l'intéressent, etc. Mais c'est recréer le monde, le refaçonner, le être un petit peu maître du monde, parce que la réalité nous échappe, parce qu'on ne peut pas toujours agir sur la réalité, parce qu'on n'a pas toujours notre mot à dire en tant que simple citoyen, en tant que simple être humain. Et là, en écrivant, on se donne un certain pouvoir. On se donne un certain pouvoir, celui de créer des personnages, celui de créer des situations, celui, etc. Et je crois que c'est l'intérêt primordial du monde, c'est de découvrir un nouveau monde, etc. Bon, ensuite, bien sûr, il y a d'autres fonctions, des fonctions sociales, pointer des doigts les maux, tous les travers d'une société, essayer de guérir les maux d'une société, dénoncer, proposer pour certains, même si je ne crois pas que ce soit le rôle d'un écrivain, mais certains écrivains proposent des alternatives, leur propre vision du monde, leur propre vision des choses. Le côté esthétique, ça peut créer du beau. Le beau n'a pas besoin d'excuses pour exister. Ça, c'est une citation d'Emerson, de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain du 19e, qui disait « Beauty is own excuse for being ». La beauté
n'a pas besoin d'excuses pour exister.
Et c'est sa propre excuse, voilà, pour exister. Et donc, créer du beau, créer voilà, tout ça. Donc, la littérature, c'est tout ça en même temps. La pérennité, oui, ah oui, certainement, surtout pour l'auteur, ben oui, c'est un rêve, c'est le rêve secret de tout un chacun. Chacun essaye de trouver un moyen de vaincre la mort, de vaincre la mort. Certains le font à travers leurs enfants, en laissant des enfants derrière eux. Certains laissent leurs ouvrages derrière eux, que ce soit des œuvres artistiques, font de grands, essayent d'accomplir des choses qui vont rester. Et la littérature en fait partie, donc on écrit effectivement dans l'un de mes poèmes, je le mets en exclusivité, même si c'est un risque que je prends parce qu'il n'est pas protégé, il n'est pas publié pour le moment. D'accord. Mais je dis connaître l'orgueil de ne jamais mourir. Je le termine comme ça. Écrire pour ceci, cela, voilà, je ne vais pas dire les vers. Et connaître l'orgueil de ne jamais mourir. Donc l'écriture permet aussi de ne jamais mourir en quelque sorte, d'accéder à l'immortalité en quelque sorte. Du moins, ça dépend des œuvres. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Les auteurs sont oubliés au bout de quelques temps.
On te remercie, on te donne rendez-vous certainement à une prochaine fois. Chers auditeurs et auditrices de Radio Rage Voix de Jeune, je vous dis au revoir, au prochain numéro, si tout va bien. Au revoir. Listening with the deep in some can worlds on either side. Yeah,